Bonjour, je me nomme Hélène Chabot et je suis professeure de philosophie au Cégep Gérald Bonnet. Je suis aussi co-chercheuse dans le projet ELAC, une nouvelle approche de l'enseignement de la lecture littéraire au collégial. Dans ce balado, j'interviewe des enseignantes et des enseignants qui ont expérimenté l'approche. Ils nous font part de ce qu'ils ont fait, de comment ils ont fait, des bénéfices encourus et des difficultés rencontrées, bref, de tout ce qui est susceptible de vous donner des idées et des outils pour vous lancer vous-même dans l'action. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Catherine Arvizet-Castonguay, enseignante au cégep André Laurendeau. Elle témoigne de la manière dont elle a organisé son cours Littérature et communication en fonction d'un cadre de référence. Bonjour Catherine!
Bonjour!
Merci d'être là pour répondre à mes questions.
Oui, ça me fait plaisir.
Tu as expérimenté dans le cadre de ton cours le cadre de référence. Pour nos auditeurs, je vais tout de même préciser au départ qu'est-ce qu'on entend par un cadre de référence. Donc, le cadre de référence, c'est, dis-moi si je me trompe, puisque c'est toi l'experte, l'ensemble des connaissances, ça peut être des connaissances culturelles, donc ce qui a trait aux socio-historiques, aux mythes, aux symboles, des connaissances théoriques aussi, les concepts, le vocabulaire, ça inclut potentiellement les expériences émotionnelles et réflexives vécues par la personne qui lit le texte. Donc, toutes ces connaissances-là qui finalement servent à développer une meilleure analyse des œuvres. Donc, on souhaite évidemment que les élèves développent une compréhension plus juste et utiliser un vocabulaire plus riche aussi pour en parler. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, ça résume bien. Dans le cadre de mon cours, qui est le cours 100, donc au Cégep André Laurendeau, on commence avec le cours littérature et communication, contrairement à d'autres cégeps qui parfois commencent avec le 101. Dans ce cours-là, j'ai voulu m'assurer auprès de mes étudiants que les concepts qui étaient sous-jacents à mes œuvres étaient bien compris par eux. Et ce sont des concepts qui parfois sont complexes. Et ce sont des concepts qui parfois donnent l'impression qu'on les connaît bien, qu'on les comprend bien, mais je me suis rendu compte dans le passé que les étudiants ne les comprenaient pas si bien que ça, finalement, et que ça pouvait freiner un petit peu leur compréhension des textes, et ça pouvait aussi un peu atténuer la qualité de leurs arguments. Okay. Donc, quand on m'a parlé d'activités, concernant le cadre de référence, j'ai tout de suite voulu faire quelque chose avec ça pour mes étudiants de 100, donc les petits étudiants qui arrivent directement du secondaire.
OK. Fait que finalement, ça répondait à un besoin là, que tu avais dans un de tes cours que tu avais déjà donné, c'est ça?
Oui, exactement. C'est un cours que j'ai donné plusieurs fois. J'abordais les mêmes œuvres et c'est quelque chose qui m'achalait un petit peu. C'est-à-dire que je le voyais que les étudiants aimaient les œuvres, ils aimaient en parler, mais les arguments tournaient un petit peu en rond ou restaient en surface. Et je me suis dit, c'est probablement parce qu'ils comprennent mal ou partiellement ces différents concepts-là, et peut-être qu'il manque un petit peu de vocabulaire pour en parler. Donc, pour moi, le cadre de référence permettait de régler un petit peu ce problème-là, de la méconception de certains concepts et du manque de vocabulaire. Et pour certains étudiants, ça pouvait aussi aider le manque de culture générale. Ouais. Voilà.
OK. Puis finalement, comment tu as planifié ça? Comment tu as intégrer ça dans ton cours, ça a été quoi la séquence ou enfin aussi les étapes de préparation là, qui étaient incluses là-dedans?
Oui, alors les concepts juste pour les expliquer, ce sont des concepts qui sont sous-jacents à toutes mes œuvres, donc du début jusqu'à la fin de la session. Donc, on parle de liberté d'expression, d'intention de communication, de propagande, de manipulation, de totalitarisme, de communisme, d'oppression et de culte de la personnalité. Donc, c'est des sujets super légers. mes œuvres, bien, on commence avec Les Brutes et la Punaise, qui est un essai de Dominique Payette sur les radios poubelles de Québec. Donc, ça permettait de commencer avec tout ce qui est liberté d'expression puis d'intention de communication, voir ses limites et tout ça. On continue ensuite avec La ferme des animaux, qui est de George Orwell, qui est une allégorie de la Révolution russe. Ça nous permet facilement de parler de propagande, de totalitarisme et même de communisme. On continue avec le film No de Pablo Larraín, qui est un film chilien qui parle du référendum c'est pour garder ou pas Pinochet au pouvoir. Et on finit avec Pyongyang, qui est un roman graphique de Guy Delisle. Donc là, on finit en Corée du Nord.
C'est quand même des œuvres variées aussi, là,
Oui,
dans les
tous les
genres.
styles, exact, tous les genres. Puis le film, il fait partie aussi de mes œuvres. Donc, on l'utilise quand même beaucoup dans les exposés et tout ça. Donc, ces différents concepts-là peuvent être réutilisés tout le long de la session. Ce que je faisais, c'est que j'ai réservé des pages blanches dans le cahier Co-op ou le recueil de textes de mes étudiants. Et chaque concept avait une page. On ne les voyait pas tous au tout début de la session. On les a vus au fur et à mesure. Souvent, j'y allais par coup de deux, donc deux concepts. Je demandais dans un premier temps, je laissais une dizaine de minutes aux étudiants pour définir au meilleur de leurs connaissances les concepts. Donc, je leur disais en équipe de deux, trois, essayez de définir le concept, essayez de donner des exemples qui vous viennent en tête, donnez-moi du vocabulaire pour en parler, faites ce que vous pouvez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, allez-y. Donc là, je les laissais discuter ensemble. Après 10 minutes, j'arrêtais le tout et là, on faisait une espèce de tempête d'idées, tout le monde ensemble, où j'écrivais moi au tableau les réponses de tout le monde. Donc, j'écrivais tout ça au tableau. À la toute fin, donc après ce deuxième 10 minutes-là, je complétais parfois avec des petites définitions ou des nuances qui, à mon sens, n'avaient pas été mentionnées. Par exemple, quand on parle de liberté d'expression, bien, je finissais avec l'ONU, la Déclaration des droits de l'homme, au Canada, concrètement, c'est quoi? Mais sans aller trop loin dans disons, le documentaire, là. C'était juste deux, trois informations pour compléter puis soutenir ce qu'on venait de faire ensemble. Parmi les premiers constats, c'est que j'ai remarqué qu'au tout début de la session, c'était pas trop évident. Les étudiants étaient bloqués rapidement. Après 1 ou 2 minutes, ils avaient terminé de définir. Ça restait un petit peu en surface. Mais je dirais que dès les trois et quatrièmes concepts, comme ils avaient vécu l'expérience de l'activité, là, j'ai remarqué qu'ils étaient beaucoup plus spontanés, beaucoup plus naturels. Ils essayaient plus de choses, ils proposaient plus de verbes, plus de mots. Ce qui fait que les 4 derniers concepts, ça s'est vraiment bien passé. Là, c'était très naturel. Quand on faisait la tempête d'idées, tout le monde en commun, j'avais plein de mains levées. Puis même, je pense qu'il fallait que je devienne une gardienne du temps. Ah, ben, merci beaucoup, mais il faut qu'on passe à autre chose. Donc, plus ça allait, puis plus les étudiants étaient naturels dans leur façon de répondre. Quoi d'autre?
Ben, en fait, si je comprends, là, c'est que, tu sais, on parle de cadre de référence, mais l'idée, c'est pas non plus de leur donner le cadre de référence, mais plutôt de les guider dans la recherche de ce cadre de référence-là et
Oui,
de leur
absolument.
faire faire l'exercice, finalement, de définir les concepts importants ici.
Oui, tout à fait. Puis je pense que ça permettait une activation des connaissances antérieures. Donc ça, c'était déjà positif. Ça faisait comme un réchauffement. Et aussi, ce que ça permettait aussi aux étudiants de constater, c'est que des concepts parfois qu'on pense connaître, bien, on ne les connaît pas si bien que ça ou on ne connaît pas tant que ça la définition. Et il y a des nuances des fois qui nous échappent un petit peu. Et c'est le fun de les réaliser, t'sais, de les constater, ces belles nuances-là. T'sais, par exemple, dans la manipulation, eh bien, la manipulation, il y a des étudiants qui se rendaient du côté de la publicité. Puis je disais, oui, c'est possible, mais gardez en tête, tu sais. Puis là, je leur montrais la définition au tableau, bien, pas au tableau, mais à l'écran, qu'il y a une intention insidieuse dans la manipulation. Donc, si vous parlez de manipulation, il y a un petit côté négatif à ça, contrairement à inciter, encourager, qui n'ont pas ce sous-entendu-là. Fait que là, on pouvait réaliser des petites choses comme ça au fur et à mesure de nos discussions.
OK, fait que finalement, ça leur permettait aussi de clarifier leur... S'ils avaient, par exemple, des associations par l'image, dans quelle mesure est-ce que ça correspondait ou pas, est-ce qu'il y avait des nuances à apporter? Mais aussi, j'imagine, quand ils avaient des biais, par exemple, s'il y avait une idée caricaturale du totalitarisme ou du communisme, j'imagine que ces choses-là étaient ressorties aussi dans le cadre de cet examen.
Oui, absolument. Par exemple, quand on parlait de propagande, les étudiants ont tout de suite en tête Hitler. Et la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est correct, ce qui est tout à fait vrai, mais j'essayais parfois en les relançant un petit peu de voir s'ils étaient capables de réaliser qu'il y a encore de la propagande. La propagande, c'est jamais mort, ça existe toujours, c'est malheureusement toujours d'actualité. Puis on finissait par aller chercher d'autres exemples, d'autres petits exemples. Ouais. Même chose avec le communisme, c'est ça qui était le fun dans la mise en commun. On pouvait justement venir briser des biais ou des méconceptions. Par exemple, j'ai remarqué qu'avec les étudiants de première année, quand on parle de communisme, ils ont toujours en tête la version utopique. Hein, tout le monde partage tout le monde est égal. Alors qu'on sait que ce n'est pas du tout ça. Et en tout cas, les pays où il y a eu du communisme... dans l'application, ce n'était pas ça du tout. Donc là, des fois, les connaissances des autres pouvaient venir soutenir ou remettre en question celles des autres étudiants, finalement. Fait qu'on arrivait à la fin avec un portrait complet et fondé, finalement.
Oui, c'est un partage entre les élèves qui est souhaitable aussi. Finalement, je pense que ça a bien fonctionné pour toi. C'est quoi les retombées que tu as vues, les avantages d'avoir procédé de cette façon-là? Là, on a parlé déjà de l'activation de connaissances, montrer que finir, c'est difficile, contourner les biais. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu as vus?
Oui, les avantages pour moi, ils ont été évidents dans les explications des étudiants, les passages significatifs que les étudiants pouvaient relever des différentes œuvres, dans leur façon d'expliquer les exercices que je leur donnais. Par exemple, ils ont fait pour chacune des œuvres, ils ont participé à un forum de discussion en ligne sur Moodle et j'ai trouvé que dans leurs explications, leur façon de répondre à d'autres étudiants, je pouvais voir une augmentation dans la qualité de leurs réponses. Ils étaient plus précis, ils étaient plus nuancés aussi que les étudiants que j'ai eus dans les années précédentes. J'ai remarqué aussi dans les exposés oraux, c'était un petit peu plus soutenu, il restait moins en surface. J'ai pu remarquer une belle précision dans leurs explications. Et même, j'ai eu un beau problème. C'était la première fois où j'avais des étudiants qui avaient le goût de poser des questions aux étudiants qui venaient de terminer des exposés. À un point tel où ça m'a crevé le cœur un peu, ça m'a brisé le cœur, puis j'ai dû interrompre parce que j'avais trop d'étudiants à passer, mais j'ai un étudiant qui a posé à un autre étudiant la question suivante. « Dirais-tu que la liberté d'expression, c'est une utopie qui n'existe pas malgré les bonnes intentions? Wow. » Et là, je suis tombée en bas de ma chaise, j'étais « Oh, wow, quelle belle question! » Ça aurait pu faire une super discussion. J'ai laissé quand même l'étudiant répondre, mais j'ai dû mettre fin à cause de mes contraintes d'horaire. J'étais super déçue. Et ça, je peux vous dire que c'est jamais arrivé avant. Là. Souvent, les étudiants finissaient leur exposé puis on devait passer au suivant de façon un peu abrupte.
Ça terminait un peu à plat,
oui,
c'est ça.
Exactement. Donc, j'ai remarqué ça. Dans les textes, les rédactions, j'ai trouvé que les étudiants arrivaient plus facilement à trouver des passages, des exemples pour soutenir leurs idées. Et il m'étonnait parfois, tu sais, dans le sens où souvent les exemples revenaient un petit peu toujours au même d'un étudiant à l'autre. Donc, ils allaient avec les exemples évidents. Tandis que là, en discutant davantage, en connaissant mieux les concepts, j'ai vu une variété intéressante dans les exemples que les étudiants pouvaient faire ressortir. Et ça, comme on l'a dit tantôt, étant donné que j'ai donné ce cours-là à peu près dans la même formule, quelquefois, j'ai pu voir une belle différence. Donc, pour moi, oui, le cadre de référence, cette activité-là, il y a une plus-value absolue et je vais refaire l'exercice, c'est sûr et certain.
OK. Donc, ça s'est transposé autant dans les rédactions que dans les exposés oraux, finalement. Cette meilleure compréhension, la possibilité d'utiliser un vocabulaire plus riche aussi, là, ça a vraiment paru.
Absolument.
Comment est-ce que tu as finalement fait une synthèse de tout ça à la fin de la session?
Oui, à la fin de la session, j'ai proposé aux étudiants d'écrire au mur. Donc, dans certains de nos locaux, au mur, au tableau, hein, on a des tableaux sur tous les murs. Donc, c'est des classes qui permettent ça. Et je les ai mis en petits groupes et je leur ai demandé de me faire une carte conceptuelle des 8 concepts qu'on a vus au cours de la session, mais de les associer aux 4 œuvres de la session. Donc, je leur donnais toute la liberté du monde. Je veux qu'au final, vous mettiez les 8 concepts, les 4 œuvres. Vous pouvez mettre des exemples des œuvres, donc tirer des œuvres, des passages, des répliques, des gestes, des personnages. Puis, je veux que vous me montriez comment vous faites comment vous liez tout ça ensemble, finalement. Et les étudiants, d'abord, bien, j'ai remarqué qu'ils ont beaucoup aimé être au tableau, ils ont aimé être debout, ils ont aimé ça en discuter. Ils avaient l'air d'avoir du plaisir. Puis même, je passais d'une équipe à l'autre, puis ils m'ignoraient un petit peu dans le sens où ils n'avaient pas besoin de moi pour parler ensemble. Ouais. Les étudiants m'ont beaucoup dit à la toute fin, parce que là, j'ai eu des cartes conceptuelles de tous les styles, de toutes les méthodes, si on veut, et ils m'ont dit qu'ils auraient aimé finalement pouvoir comme refaire le tout au propre. Parce que là, ils étaient au tableau, et là, ils se partaient d'un bord et de l'autre. Et à la fin, ils disaient, avoir su, là, on aurait mis ça à tel endroit où on aurait reconfiguré ça un petit peu. Ce qui fait que je me suis dit, ah, ben là, c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont été investis dans l'activité à un point tel que, naturellement, ils m'offrent de la rétroaction.
Ouais.
Et là, je l'ai pris en considération. Tu sais, je me suis dit que tant que la prochaine fois, on pourrait faire cette partie-là à l'ordinateur, avec les logiciels, pour faire des cartes conceptuelles. Fait comme ça, ils ne seraient pas figés après avoir placé des choses. À la fin, les étudiants ont pris une photo de ça. Donc, ils ont pu les partager avec leurs collègues. Et quand l'activité a pris fin, j'ai demandé à tout le monde, je dis, est-ce que vous pourriez me dire quelles étaient mes intentions par rapport à vous cette session-ci? En vous présentant ces concepts-là et en vous proposant ces œuvres-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez que je veux que vous reteniez? Et encore une fois, la discussion a été très dynamique et au final, j'ai été capable d'avoir, en faisant parler tous les étudiants, ils ont été très près de ce qui était vraiment mes intentions. Donc, ils ont été capables d'y réfléchir et de me dire, oui, vous vouliez, bon, c'est sûr, en gros, tu sais, je voulais les mettre sur leur garde. Ne gobez pas tout ce qu'on vous dit tout le temps. Remettez en question, informez-vous, soyez alerte à la propagande, à la manipulation, aux messages qui sont trompeurs. Donc, on en est arrivé là tous ensemble. Bon, il y avait d'autres petits détails ici et là. Mais l'importance de l'éducation aussi, parce que, par exemple, dans la ferme des animaux, les animaux moins éduqués sont ceux qui sont les premières victimes de la propagande. Donc, finalement, on a eu une belle discussion que clôt. Il nous restait encore quelques cours après, mais on approchait la fin de la session. Et j'ai l'impression qu'on a pu faire ensemble une belle synthèse. Et de mon côté, ça m'a permis de confirmer que mes intentions envers eux avaient été atteintes, avaient réussi finalement. Mes intentions de communication ont réussi.
Oui, c'est vraiment très inspirant tout ça. Finalement, étant donné les thèmes que tu as abordés, puis la façon de les faire travailler dès le début sur ces thèmes-là, ça a permis finalement de, comme tu dis dans l'activité de synthèse, de faire un retour sur eux-mêmes et de voir quelles seraient les applications que ça aurait sur eux, tu sais, dans une optique d'éducation citoyenne, finalement, là.
Ah oui, c'était ça aussi mon intention depuis toujours, tu sais, de choisir tout ça pour que les étudiants soient prêts à affronter le vrai monde avec la propagande qui existe, avec les messages trompeurs ici et là, surtout maintenant avec les réseaux sociaux et le concept des fake news, puis toutes ces choses-là. Je me suis dit, mais il faut qu'ils soient alertes. Fait que j'espérais que mon cours puisse servir à ça. Et oui, donc je pense que c'est tout à fait transférable, ces différents concepts-là. cette méthode-là aussi, mais si je me concentre sur les concepts, moi, je vois des liens évidents avec philosophie, je vois des liens évidents avec les étudiants qui suivraient les cours d'histoire ou de sciences politiques, parce que c'est des concepts qui sont tout à fait...
transférables.
Oui, transférables, merci.
Oui. Mais en fait, ce que je remarque par ailleurs, c'est que ça a permis de dynamiser aussi. Tu dis qu'il y a eu plus d'interactions, eux-mêmes voulaient faire telle activité. Donc, il y avait ça a comme imprimé un certain dynamisme dans ton cours, ce qui n'est pas négligeable là, du point de vue de la motivation.
Absolument. Ouais. Et j'ai même pensé qu'éventuellement, quand je leur demandais, là, je leur donnais un 10 minutes ensemble, tu sais, ils étaient proches là, de leurs collègues de bureau, mais je pense que je les enverrais plus souvent au tableau pour faire leur tempête d'idées, écrire au tableau leur perception de ce mot-là, leur impression de définition et tout ça, pour justement augmenter le nombre de fois où ils sont debout, où ils écrivent. J'ai remarqué aussi que c'est plus gênant pour un étudiant passif de vraiment rien faire quand ils sont debout près d'un tableau. Ouais. Ça paraît tout de suite, donc ce côté-là, je pense qu'il peut avoir l'avantage également. Ouais. Ils pourraient prendre des photos. Moi, j'aimerais qu'à la fin, ils aient une version peut-être imprimée, tu sais, des photos qu'ils prennent, parce que pour l'instant, les cours se font encore beaucoup sur papier, les rédactions papier. Donc, quand ils font leur plan et tout ça, j'aimerais qu'ils aient la source papier. Mais éventuellement, on verra. Hein? Peut-être que les photos suffiront.
Ouais.
Mais et comme j'ai dit tantôt, je ferai peut-être l'exercice de synthèse au laboratoire avec des ordi pour qu'il y ait l'option d'utiliser des logiciels de cartes conceptuelles.
Oui. Ça suppose de connaître les logiciels par ailleurs ou plutôt... les applications là, en ligne qu'on peut utiliser. Il y en a plusieurs,
oui,
là, Miro, MindMap, ces trucs-là. Mais avant de se lancer, je pense qu'il faut quand même s'y connaître et former les étudiants parce que ce n'est pas garanti qu'ils savent comment ça fonctionne.
Exact. Et c'est un peu pour ça aussi que j'avais fait l'exercice sur le tableau. J'avais pas eu le temps moi-même de me familiariser avec les logiciels. Puis je me suis dit, ah non, je me lance pas dans un cours où je vais peut-être passer plus de temps à accompagner les étudiants du mieux que je peux. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai choisi le tableau, mais j'aimerais effectivement me familiariser avec ces outils-là. Et je sais aussi qu'on a une technicienne qui serait prête à venir avec nous en classe cette journée-là pour m'accompagner. Donc, je ne serais pas seule avec mes 35-40 étudiants. J'aurais un petit peu d'aide pour les soutenir s'ils ont besoin d'aide technique.
Oui, c'est une belle ressource.
Si
quelqu'un veut se lancer dans le cadre de référence dans son cours, j'imagine que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire d'y aller étape par étape, puis en fonction de s'approprier graduellement aussi la méthode.
Oui, je pense que le cadre de référence, les éléments clés, ce serait de s'assurer que les étudiants participent activement pour que ça ait un impact un peu plus durable et aussi de laisser beaucoup la place aux étudiants parce que ça permet de voir leur propre conception des concepts, ça permet aux profs de mesurer où ils sont, les étudiants, dans leur connaissance des mots, mais aussi dans leur culture générale. Et personnellement, je m'assurais de rebondir sur ce qu'ils disaient, de m'inspirer de ce qu'ils disaient pour les impliquer dans la création de notre définition. Et j'imagine en fait que si je refaisais l'exercice avec plusieurs groupes, là, j'en avais qu'un seul, mais j'imagine que mes définitions seraient sensiblement les mêmes, mais il y aurait assurément des petites différences parce que j'ai vraiment surfé sur ce que les étudiants me disaient et je les relançais un petit peu. Donc, ça rend le tout très, très actif, très dynamique. Et ceux et celles qui participaient le plus, c'est eux pour qui je voyais la plus grande qualité. Ce sont chez ces étudiants-là que je peux avoir une belle qualité dans les explications, dans les exemples qui ressortaient. Donc, pour moi, c'est sûr que le cadre de référence, c'est maintenant, pas un acquis, mais un must dans tous mes cours. Et j'imagine surtout les cours de première année. Parce qu'ils accèdent pour la première fois aux études supérieures, ils doivent acquérir doucement une pensée qui est complexe. Ce n'est pas évident. Donc pour moi, c'est sûr que c'est un must que je garde en tête dans tous les cours que je vais construire.
Oui. C'est très convaincant. Je dois avouer aux auditeurs que je suis en philo et en fait, Catherine m'a inspirée. J'ai moi aussi intégré une activité du genre dans mon cours. Donc, merci beaucoup, Catherine, pour ce partage.
Ah ben, ça me fait plaisir. Passez une belle journée.
Bonne journée.
L'approche de l'ELAC a été développée dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par le programme PAREA avec Catherine Bélec et Roxane Doré. Pour plus d'informations, consultez notre site web elac.ca. Ce balado a été rendu possible grâce à l'Élan. La captation sonore et le montage sont réalisés par Rémi Assal.